Delphine Pajot, bonjour.
Oui, bonjour Sandrine.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci d'être là avec nous.
Oui, alors merci de tout d'abord de me laisser la parole ce matin. Donc je me présente rapidement, Delphine Pajot. Nous avons quatre enfants avec mon mari. J'habite dans les Yvelines. Voilà. Donc en effet, je vais vous parler du thème du deuil. Au travers de Fondatio, oui, et plus précisément sur le veuvage précoce, qui touche pas moins de 500 000 hommes et femmes en France chaque année. Alors, je donne une précision, précoce ne veut pas dire que le décès vient d'arriver. Cela veut dire la perte de son conjoint avant l'âge de 55 ans, sachant que la moyenne se situe autour de 40 ans, en tout cas ces dernières années. Voilà. Alors, évidemment, vous me direz que perdre son mari ou sa femme, quel que soit son âge, est toujours trop tôt. Oui, c'est évident. Mais bon, encore plus lorsque nos enfants ne sont pas encore autonomes. Et c'est vrai d'ailleurs qu'ils soient encore tout petits ou bien lycéens ou même jeunes étudiants. Alors, car qui dit perdre un conjoint dit aussi perdre un parent pour nos enfants. On dit aussi qu'il y a en moyenne un enfant par classe qui est orphelin dans d'un de ses deux parents. Donc c'est quand même assez conséquent. Alors il s'agit ici de vous donner un témoignage personnel sur ce thème, à travers lequel j'aborderai en partie la question du cheminement de deuil, à proprement parler, où il n'est pas question de faire son deuil, mais de le vivre, puisque c'est un état et que chaque deuil est unique. Et parce que spécifiquement, le veuvage est un autre état que celui non moins douloureux d'avoir perdu un enfant ou bien un parent, un frère, une sœur. C'est très spécifique. Je vous ferai aussi une proposition d'un week-end de retraite sur ce thème, dans un lieu qui fait sens, donc à Fondatio, qui est un lieu chrétien. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Après vous avoir partagé mon témoignage et le cheminement vers cette initiative pour les veuves précoces, que nous faisons aujourd'hui avec mon second époux. Donc, j'ai vécu cette expérience personnellement lorsque j'ai été veuve à l'âge de 29 ans. J'en ai 49 aujourd'hui. Nous étions parents d'une petite fille de 2 ans, Juliette, une jolie tête blonde, si joyeuse et rieuse. J'étais tellement triste après la mort de mon mari, après 5 ans de mariage heureux, que selon moi, ma vie était comme terminée. Malgré ma foi, plus rien ne pouvait se passer de plus beau que mon mariage avec Cédric, qui est décédé à 29 ans d'une tumeur cérébrale, et dont j'avais toujours, malgré tout, au fond de moi, gardé longtemps un tout petit espoir qu'il guérirait. Non, plus rien. Comme je disais, malgré ma foi qui pouvait me soutenir, je pensais que je ne pouvais plus être heureuse à nouveau. Je pleurais beaucoup. Mais ce que je ne savais pas à ce moment-là, environ 5 mois après son enterrement, c'est que j'étais en train de vivre ce que j'appelle toucher le fond de la piscine. J'étais tellement mal, mais parce que la psychologue que je voyais à ce moment-là m'avait spécifiquement demandé de lâcher tout, d'arrêter d'être en résistance de cette mort dont je ne voulais pas, d'arrêter de fuir en allant quasiment tous les soirs et week-ends chez des amis ou dans ma famille. Tout ça pour éviter de me retrouver seule face à moi-même. Alors je précise à propos de ma psychologue que j'ai vue pendant environ 1 an et demi, qui m'avait apporté beaucoup de soutien pendant la maladie de Cédric et après son décès, qu'elle était aussi sophrologue. À un moment, elle m'a demandé de m'allonger car elle sentait toute la colère que j'avais en moi. Ça a duré juste une séance, en fait, cette partie sophrologie. Et toute la colère que j'avais en moi n'était pas sortie, elle le sentait. Et par sa parole et son toucher simplement de mon ventre, et par ma parole qu'elle a engagée, j'ai senti physiquement cette colère s'évacuer. Elle m'a précisé qu'en sortant du rendez-vous, je me mettrais probablement à trembler de tout mon corps, mais que c'était normal. Et c'est ce qui s'est passé en marchant vers le métro. Je me suis sentie tellement libérée après ça. Alors même si mon entourage de grande qualité, j'ai beaucoup de chance, avait une belle écoute de ma situation, en réalité, dans cette phase de fuite et de recherche, que décrit d'ailleurs si bien Christophe Fauré dans son livre que je recommande vraiment, Vivre le deuil au jour le jour. Dans cette phase de fuite où tout se focalisait sur mon conjoint disparu, j'en parlais, mais je croyais que la douleur du deuil pouvait être maintenue sous contrôle. En fait, c'était une illusion. Oui, il fallait que je me retrouve seule avec moi-même pour éviter de vivre, pour laisser vivre cette douleur, accepter la réalité d'être veuve, d'être celle qui reste seule alors que sans lui, je ne pouvais vivre. Et sans lui, je ne pouvais vivre alors qu'il n'était plus de ce monde. Heureusement, ma foi catholique était vivante, comme je le disais. J'avais même ressenti pendant sa maladie, lorsqu'il était en soins palliatifs, alors que j'étais désespérée dans mon salon, genoux à terre, dans un point de détresse forte, j'ai senti qu'une force m'a relevée et ne m'a plus quittée pendant tous ces mois. Jusqu'à ce moment difficile de déstructuration, comme un moment très dur mais indispensable. Or justement, quand on touche le fond de la piscine, on s'appuie dessus pour mieux remonter à la surface. C'est ça qui est important. C'est le temps d'une lente reconstruction qui m'a permis de commencer à accepter ma nouvelle identité. D'accepter cette étiquette que j'avais d'être veuve, oui, d'être une mère seule avec son enfant, d'être une femme en deuil, qui accepte que peut-être son deuil ne sera jamais fini. Et alors, peu importe. Ce deuil, il vivait en moi et je le laissais faire son chemin et me traverser complètement. J'aimais Cédric pour l'éternité et rien ne pourrait changer cela de toute façon. Heureusement que ma Juliette, ma petite fille de 2 ans, si joyeuse et si rieuse, était là. Elle m'a redonné sens. Alors j'avais des hauts et des bas, bien sûr, mais j'avançais de nouveau. Sans rien connaître à l'époque du processus de deuil, j'ai eu l'intuition et le désir de mettre des mots dessus. Et avec la foi qui m'habitait, j'ai naturellement eu envie de vivre une retraite pour les veufs. C'est ce que j'ai fait lors d'un week-end à Morez, chez les Jésuites, à l'époque, qui m'a beaucoup apporté à ce moment-là. D'abord, j'avais pris ce temps pour moi, avec le Seigneur, mais aussi je m'étais retrouvée avec d'autres personnes comme moi, qui avaient perdu leur conjoint. Et cela m'avait permis d'échanger, d'être comprise vraiment en profondeur, de percevoir aussi que j'avais finalement bien avancé dans mon deuil par rapport aux autres. Plus je me vois, plus je me désole, plus je me compare, plus je me console. Cite souvent mon second époux, pour le coup. Alors justement, je mesure tellement la chance que j'ai eue de rencontrer Alain, mon époux actuel, veuf lui aussi à 29 ans, à qui j'ai su ouvrir mon cœur de nouveau, sans rien enlever de l'amour que je porte pour Cédric, mon premier époux. Un amour intact, pur, mais transformé pour l'éternité, je pourrais dire. Oui, la mort met un terme à la vie, mais pas à la relation. C'est exactement comme pour une mère qui perd son petit enfant. Il n'est plus en vie. Sa maman n'est plus physiquement près de lui, mais malgré tout, elle continue de l'aimer pour toujours, pour l'éternité. Alors, pour moi, la difficulté au début a évidemment été la tentation de la comparaison entre mes deux amours. Mais j'ai écarté cela petit à petit, acceptant aussi qu'ils avaient chacun leurs immenses qualités, mais qui étaient différentes, et aussi des défauts propres à chacun. En fait, des plus, des moins, mais aussi des points communs, comme l'humour. Clairement, je peux dire que le processus de deuil et le processus amoureux ne se situent pas au même niveau. J'ai découvert qu'on peut aimer, faire à nouveau des projets, tout en restant dans un vécu d'une tristesse liée à l'absence de son conjoint. Combien de fois Alain m'a prise dans ses bras pour me consoler de l'absence de Cédric. Chacun de nous deux s'aime, tout en étant respectueux de cet amour passé qui nous habite encore, chacun, lui comme moi. Ce que nous appelons la communion des saints. Chacun de nos conjoints défunts est présent, aussi, dans nos prières conjugales. Ils sont présents dans une relation intime, profonde, durable, mais bien à leur place, En fait, juste ce qu'il faut et pas au cœur de notre couple. Alors donc, je mesure la chance que nous avons et je rends grâce. Nous avons eu la joie d'avoir ensemble une petite fille nommée Sophie, toute blonde elle aussi, mais qui a déjà 17 ans. Alors, dans une fratrie de quatre enfants, très heureux. Alors, je reviens au processus de deuil en lui-même. Oui, je redis que chaque deuil est unique, car chacun a son rythme, qui ne rentre pas forcément dans les cases des dix phases et étapes de deuil. Mais en tout cas, s'il y en a une qui est incontournable à mon sens, c'est celle de la nouvelle identité. Se faire une identité propre après ce changement. Cette acceptation où l'on peut enfin cheminer et avancer vers cette autre partie de notre vie, puisque de toute évidence, plus rien ne sera comme avant. C'est pour cela qu'avec le temps, avec mon second époux Alain, nous avons commencé il y a une dizaine d'années à aider des veufs et veuves en constituant des groupes de parole par thème dans notre paroisse à La Celle-Saint-Cloud. Il nous est apparu comme une évidence que nous pouvions apporter ne serait-ce qu'un peu de réconfort, d'écoute, de compréhension vis-à-vis de ces personnes parfois très esseulées. Alors à ce propos, je précise ici que les groupes de partage dans la durée, avec des rencontres régulières environ une fois par mois, sont un très bon moyen de sortir de la solitude et d'aider pour le deuil. Et l'association Espérance et Vie ou encore Amour et Vérité de la communauté d'Emmanuel le propose dans de nombreux lieux en France. Donc nous avions d'abord monté ce groupe de parole autour de chez nous pendant 3 ans, avec des thèmes différents par séance. Puis nous avons compris qu'il était aussi pertinent de regrouper par tranche d'âge, là où les problématiques sont un peu différentes, selon la présence d'enfants encore à la maison, selon que l'on est parent et pas encore grand-parent en fait. Donc, comme il existait assez peu de propositions dédiées spécifiquement aux veufs et veuves précoces, donc à part avec Espérance et Vie qui propose un week-end à Paris tous les 2 ans, ou bien d'autres propositions qui sont faites mais qui regroupent souvent les parents seuls et donc qu'ils soient divorcés ou veufs, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas spécifiquement les veufs. Il existait donc assez peu de possibilités ciblées. Alors nous avons décidé tous les deux de monter bénévolement un week-end de retraite dédié dans un lieu qui fait sens, à Fondacio. Nous étions, c'était il y a 5 ans, décidément dans une quête d'authenticité et d'ouverture, avec tout simplement notre cœur bienveillant qui humblement cherche à apporter son aide en ayant vécu la même épreuve. Et l'on sait combien parler et échanger à une vertu pour le deuil. C'est un vrai chemin pour avancer, et je peux en témoigner, d'en avoir parlé énormément avant même d'ouvrir des groupes, m'a fait un bien fou. Alors concrètement, cette session à Fondatio, que l'on a baptisée Poursuivre le chemin, avec un petit jeu de mots, poursuivre, pour-suivre le chemin, s'adresse à ceux qui ont perdu leur conjoint, donc avant l'âge de 55 ans. Ce sont 2 journées à Versailles pour ceux qui souhaitent vivre le partage et l'entraide, mais aussi être éclairés par des enseignements de spécialistes, des témoignages, avec la possibilité d'hébergement sur place, bien sûr. C'est un temps de ressourcement, car ce n'est pas toujours facile dans cette période chamboulée de deuil, d'abord de prendre un temps de respiration pour soi, et pourtant c'est très important. Ce n'est pas toujours facile de trouver l'endroit pour se retrouver avec des personnes qui prennent ce temps et surtout qui vous comprennent de l'intérieur puisqu'elles ont vécu la même chose. Alors nous choisissons volontairement de limiter à environ 15 personnes. On est allé à 18 maximum, c'est un très bon nombre, pour favoriser les échanges et les rencontres qui donnent lieu à des échanges prolongés, et justement des rencontres par la suite entre eux, en se connectant par WhatsApp s'ils le souhaitent. Alors ça se passe à Fondatio, au lieu dit de l'Ermitage, à Versailles. Le prochain week-end aura lieu le dernier week-end de mars, les 25 et 26. En plus, nous avons un projet d'une nouvelle session qu'on est en train de monter par ailleurs, le premier week-end d'octobre dans le sud, pour le coup aux îles de Lérins, où il y a Fondatio également, avec Amitié Léens Fondatio, sur une île qui a un beau monastère avec les moines bénédictins, dans un lieu magnifique, tellement calme et inspirant. Nous souhaitons que ce projet voit le jour. Alors, vous me direz, pourquoi à Fondatio ? Fondatio, c'est un lieu chrétien, une association reconnue de droit pontifical, car elle est internationale, présente dans 22 pays sur les 4 continents, avec en France spécifiquement une trentaine de permanents, et plus de 600 bénévoles réguliers. Elle vit de dons. C'est une communauté œcuménique ouverte à tous, croyants et non-croyants, engagée dans le monde, avec une vocation, on pourrait dire son ADN, composée de 3 piliers fondateurs. D'abord, donner du sens à sa vie, ensuite s'engager dans le monde pour mieux vivre ensemble. Voilà, donc on peut dire que c'est un lieu chrétien où se poser, se ressourcer, en lien vraiment avec les autres. C'est un lieu d'espérance, où le consolé devient consolant, avec des histoires de vie transformées, au travers notamment de tout ce qui est proposé. Préparer sa retraite, prendre soin de son couple, les jeunes et leur orientation. Donc avec de la formation, du ressourcement spirituel, de l'action solidaire, parce qu'il y a de l'hébergement social là-bas, de la vie relationnelle et même artistique, ou encore l'écologie intégrale. Bref, pour résumer, en fait, Fondatio, pour comprendre ce lieu, c'est un lieu qui transforme des personnes pour transformer le monde. Et donc, je peux donner quelques exemples, parce que ça c'est pour proposer pour des personnes dans toutes les situations de vie, couple, veuf, divorcé, jeune, senior. Donc, des exemples de comme retraiter sa vie pour préparer sa retraite, ou la session couplet job pour les couples, le parcours séparé-divorcé, des sessions d'orientation pour les jeunes. Voilà. Et ce que nous avons apporté avec ce week-end, poursuivre le chemin dans le veuvage précoce, etc. etc. Je vous invite à aller sur le site. Alors, comment se passe ce temps de ressourcement ? C'est un week-end dense qui est rythmé avec des temps en grands groupes, d'autres en petits groupes, des temps d'enseignement, de témoignages, d'écoute, de prière. Et plus précisément, pour rentrer un peu plus dans le détail, des ateliers en fait personnels pour pouvoir se retrouver, vraiment se poser en arrivant dans ce week-end, on dépose et on repart le lendemain en étant plus fort de ce qu'on a pu déposer. Il y a également des temps d'échange en petits groupes proposés sur des thèmes que chacun peut choisir, des thèmes pour ceux qui nous entourent et pour soi-même, comme par exemple les enfants, comment les accompagner dans ma nouvelle vie, répondre à leurs questions, ou bien que faire avec les photos, les objets, les rites en quelque sorte, aller au cimetière, les anniversaires, etc. Comment gérer tout ça au niveau du deuil. Une autre question, gérer ma belle famille, ma famille, lorsqu'il peut y avoir des tensions éventuelles, les liens, les visites. Pour soi-même également, des thèmes au travers de son deuil et de son veuvage, apprivoiser ma solitude, ma nouvelle vie relationnelle. Ou bien alors puiser des forces dans mon mariage et donc quelle place pour mon conjoint disparu dans ma nouvelle vie. Voilà. Quelle place lui donner. Encore une autre question qui est vraiment propre à chacun, c'est aimer de nouveau. Voilà. Tout est possible et chacun peut choisir en fait librement un jour puis l'autre les thèmes qu'il veut. Voilà. Pas tous, évidemment. Voilà. Donc il y a des renoncements. Donc j'ai donné quelques exemples. On aborde aussi évidemment des témoignages, mais aussi des enseignements sur plusieurs points, d'abord sur les phases du deuil, avec Sophie Poubarbonnet, qui est une coach spécialiste du deuil à Versailles, qui est présente aussi tout au long du week-end, ou bien sur un thème spirituel, évidemment, car nous avons la chance d'avoir la présence d'un prêtre tout au long du week-end. Donc pour la prochaine session, c'est le père Alain Rouel, des foyers de charité de Poissy, qui est déjà venu auparavant. Nous avions eu également Monseigneur Jordan le Père Beau dans le Monseigneur Jordan, évêque émérite, et le Père Beau dans le passé également. Un autre thème d'enseignement abordé a été juste lors de la dernière session seulement sur les orphelins, avec la présence de Marie-Madeleine de Kergorlais, qui intervient d'ailleurs régulièrement sur Radio Maria, sur ce thème des orphelins, qui a écrit un livre sensibilisant le deuil des orphelins et comment les accompagner. Mais je reviendrai sur ce thème juste après en vous donnant un témoignage personnel. Je termine juste sur le contenu du week-end à Veuf à Fondatio. Bien sûr, il y a des écoutants présents pendant le week-end pour des sujets spécifiques à évoquer, alors à deux seulement, si les participants ressentent le besoin. Donc, c'est sur un temps court d'une demi-heure pour aborder des thèmes très personnels. Alors, ces écoutants peuvent être des accompagnateurs spirituels, des thérapeutes pour adultes ou enfants. On a des temps de prière, bien sûr, et de louanges, et une messe sur place le dimanche matin pour ceux qui le souhaitent. Généralement, c'est très. Les personnes viennent beaucoup, même si, comme je vous le dis, c'est ouvert pour la prochaine session. Il y a quelqu'un qui ne croit pas, qui sera là malgré tout. Donc c'est vraiment ouvert, ou une femme protestante également, même si le cœur est vraiment très catholique pour le coup. Alors on propose aussi des livres avec une bibliographie proposée, donc chacun apporte les livres qui l'ont marqué et explique un petit peu pourquoi. Donc c'est vraiment un partage de richesses qui permet de constituer une liste précieuse. Dans ce week-end, évidemment, où on partage beaucoup, les larmes sont possibles. Et il faut surtout s'autoriser celles qui viennent, car elles ont une vertu. Dans son livre « Je changerai tes larmes en joie », Elisabeth Mathuridel l'explique par la topologie des larmes, différentes selon leur nature. Car en fait, elle dit que les larmes de douleur, de joie ou de tristesse n'ont pas la même composition chimique si on épluche des oignons ou si on est des larmes de tristesse, évidemment. Celles-ci libèrent des endorphines qui vont avoir un effet apaisant. Voilà. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Justement, c'était les béatitudes que nous avons entendues hier. Alors, on a évidemment, pour terminer, des temps d'échange informels lors des pauses, des repas. J'insiste sur cette compréhension mutuelle particulièrement forte lors de ces week-ends entre personnes qui vivent les mêmes choses, qui apprennent à vivre autrement, seules avec leurs enfants parfois très jeunes. C'est un lieu qui évite les phrases malheureuses, maladroites souvent, de ceux qui ne vivent pas de deuil. Alors, je vais donner des exemples de phrases vraiment maladroites à éviter. Il n'aimerait pas que tu sois triste, ou bien tu as encore toute la vie devant toi. Ou au moins, tu sais qu'il n'a pas trop souffert. Ou bien encore, c'est important que tu t'occupes. Sors un peu, va te changer les idées. Oh, ça fait 3 ans maintenant, il serait temps que tu retrouves quelqu'un. Bref, allez, une petite dernière. Cette expérience te renforcera. Bon, non, c'est à chacun son rythme. Chaque deuil est unique et ce temps de cheminement lent ou rapide nous appartient. Donc, évidemment, on ne retrouve pas ce genre de phrase dans ce contexte, et ça fait du bien. Alors, avant de terminer, je reviens juste sur le petit témoignage personnel que je voulais donner sur les enfants. À propos de ma fille Juliette, lorsqu'elle avait 5 ans, et qui a réalisé qu'elle ne reverrait plus son papa, nous avions ce jour-là pleuré ensemble un très long moment. Ça a été une partie importante du processus de son propre deuil. Oui, parce qu'à 2 ans, on ne se souvenait pas plus de ce qu'était son papa. Alors, lorsque son père est décédé, j'avais eu une belle intuition de constituer une malle avec ses souvenirs importants, ses lettres, ses papiers, médailles, quelques objets phares et des vêtements. Les photos étaient déjà, bien sûr, en sa possession depuis longtemps. Et j'avais constitué tout ça pour ouvrir cette malle alors qu'elle aurait 15 ans. Quel moment inoubliable. J'ai eu cette intuition, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, nous y avons passé 5 heures à parler, à rire et à pleurer, bien sûr. Aujourd'hui, elle est étudiante et c'est aussi devenu son rite à elle d'aller chercher dans cette malle la vie d'étudiante de son père, avec toutes ses belles activités sportives, de voile, etc. Je trouve ça très beau. Je voulais vous le partager. Tout ça pour dire que pour des enfants jeunes qui perdent leurs parents, il est très important de conserver les souvenirs et encore mieux de les écrire, dirait Marie-Madeleine de Kergorlay, pour que notre propre mémoire ne fasse pas défaut au moment où ils auront besoin de creuser leur propre identité. Il n'est jamais trop tard d'ailleurs pour le faire, je peux en témoigner, car j'ai lancé cette demande de témoignage pour les 20 ans de la mort de mon époux très récemment, soit les 22 ans de ma fille. Et il se passe plein de belles choses. Voilà. Alors, je vais bientôt m'arrêter là. Et pour conclure, pour terminer, permettez-moi de vous rappeler la prochaine session pour les veufs et veuves précoces que nous proposons à Fondatio et qui aura lieu à Versailles les 25 et 26 mars prochains. Alors, il ne reste plus que quelques places, mais voilà, c'est des renseignements et contacts via l'adresse mail poursuivrelechemin@gmail.com, en un mot. Ou sinon, vous trouvez toutes les infos et flyers sur Internet, avec les mots-clés sur Internet, Fondatio, des mots-clés Fondatio, veuf, précoce, voilà, ou fondatio.fr. Donc ce week-end a lieu chaque année, ou sinon probablement une autre session dans le sud, au Lérins, début octobre. Voilà. Et la prochaine, évidemment, l'année prochaine sera fixée aussi en mars 2024, mi-mars.
Donc Delphine Pajot, merci d'être avec nous. Pour le moment, pas encore de réaction de nos auditeurs. Voilà, alors merci en tout cas de tout ce que vous nous avez appris et enseigné aujourd'hui, voilà, pour fortifier les personnes qui vivent toutes ces difficultés. Bien, peut-être si, voilà, pour toutes ces personnes qui vivent ces temps difficiles, pourriez-vous rappeler où est-ce qu'on peut trouver toutes les informations afin de voilà, d'avoir les bons enseignements, voilà, à qui s'adresser?
Alors, moi, je dirais vraiment, je pour être passée par là, je conseille toutes ces personnes de vraiment essayer le plus possible de s'ouvrir. De voir du monde, de vraiment de, pour essayer de parler, parce qu'il y a vraiment une vertu de la parole pour raconter son histoire, qui vraiment permet de poser les émotions, de les exprimer dans la parole, et ensuite d'être évidemment moins dans une émotion qui va vous rendre vulnérable en toute situation. Donc vraiment, je pense que la parole a une très une grande vertu, et bien évidemment, parfois, malheureusement, la famille, les amis ou la belle famille ne sont pas toujours le bon endroit pour cela, parce que qui dit un conjoint décédé dit aussi peut-être un fils pour des beaux-parents, un frère, une sœur pour des belles-sœurs, ou un grand ami. Donc c'est pas toujours facile, évidemment, puisqu'il y a une empreinte de chacun. Alors, pas oublier qu'il y a aussi des prêtres à qui l'on peut parler, même des religieuses. Moi, ça m'est arrivé avec les béatitudes, et c'était vraiment un très, très bon moment pour cela. Évidemment, dans les cas plus délicats, qui sont peut-être des accidents, ou des suicides ou autres, le fait de voir un psychologue, évidemment, est clé. Voilà. Et se rappeler aussi que cette vertu de la parole peut vraiment permettre à la joie de revenir. Moi, je peux en témoigner, mais parce que je crois qu'il faut vraiment situer les choses là où elles se situent. Donc, je rappelle cet amour qui finalement, forcément, pour son conjoint, se transforme, puisqu'on n'est plus comme avant. Et donc, cet amour qui est vraiment voué à l'éternité, quoi qu'il se passe, en fait, sur ce qu'on vit sur Terre. Et je crois qu'il ne faut vraiment pas avoir cette culpabilité. Moi, je ne peux pas dire que je l'ai eu au début, un petit peu, cette culpabilité. C'est normal, parce qu'on a l'impression d'abandonner, de trahir l'amour de sa vie. Et en fait, il n'est pas question de ce terme. Parce qu'en fait, le cœur peut s'ouvrir à d'autres joies, d'autres bonheurs sur ce moment actuel. Et il y a une chose clé aussi, c'est que le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de l'homme. Et voilà. Donc, je crois vraiment que Le Seigneur voilà, comprend, veut notre joie et il faut vraiment culpabiliser par rapport à ça.
Merci beaucoup en tout cas. Et nous avons une auditrice, Sandrine, qui souhaiterait intervenir. Bonjour Sandrine.
Oui, bonjour Radio Maria. Bonjour à vous. Je me suis permise de téléphoner, non pas parce que, on va dire, j'avais envie, mais je pensais que d'autres personnes allaient appeler, donc je voulais écouter les témoignages. Et en fait, je me suis dit, il faut quand même appeler pour dire déjà que merci pour votre émission. Et pour les mots que vous dites, par contre, je suis désolée. Comme vous dites, chacun son rythme. Donc oui, je ne suis pas désolée, non, vous l'avez dit, chacun son rythme. Il en est hors de question, tout ça. Hors de question. Les groupes de parole, je les ai faits. Ou s'ouvrir aux autres, ben oui, mais à un moment donné, ils en ont plus rien à faire et on rabâche toujours les mêmes choses. Ils comprennent pas que justement, ben au bout d'un an, il faut tourner la page. Au bout de 3 ans, n'en parlons pas. Mais alors, au bout de 6 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut le dingue. De dire, ben oui, que le jour de l'enterrement, c'est pas grave, t'es jeune, tu vas te remarier. C'est atroce. Non, n'oublie pas tout ça. Et oui, c'est l'amour de ma vie. Moi, j'ai mis mon nom sur la plaque avec lui. Il m'attend. Enfin, je l'attends. Et je croyais mourir de chagrin dans l'année, mais pas violemment, de m'éteindre. Ça a fait six ans il y a quelques jours. Je vais pas dire que c'est de pire en pire, c'est que c'est pareil, mais ça fait encore plus mal, puisque ça fait, c'est quand on appuie quelque part, quand on a mal, quand on appuie pendant plusieurs heures, ça fait mal. Alors 6 ans, ça fait très très mal. Mais les gens ne comprennent pas. Et la joie, oui, le temps de Dieu, j'écoutais les dernières paroles que vous disiez pendant que j'attendais là. Je sais que notre temps n'est pas celui de Dieu. Mais c'est très compliqué tout ça. Ça change une vie totale, ça change une famille. Parler des relations familiales avec les enfants, etc. Les enfants grandissent. J'en ai un maintenant qui va se marier. C'est très compliqué parce que c'est le premier, c'est l'aîné et il n'y aura pas son père. Et on ne comprend pas pourquoi moi, je suis contente pour mon fils, mais pourquoi j'ai peur de ne pas y arriver. Parce que je vais rentrer dans l'église avec mon fils et je vais sortir sans mon mari, qui a décidé, lui, de partir. Il a souffert au point d'en arriver à se mettre sur un arbre. Donc, c'est compliqué. J'en ai un autre qui est plus petit, qui ne veut pas entendre parler de son père. Et en fait, je vous ai appelé, mais j'ai juste envie de pleurer, quoi, de hurler. J'ai juste envie de hurler.
Je suis tellement désolée. Je comprends, c'est douloureux. Et chacun son rythme, évidemment. Vous avez le droit d'avoir, voilà, votre conjoint a une vie particulière pour vous et vous continuez votre vie avec lui, bien évidemment. Mais dans ce monde avec lui pour toujours. Dans votre cœur, j'imagine que vous croyez, vous allez le retrouver, effectivement, comme je dis, vous l'aimez pour l'éternité, vous pourrez vous retrouver. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une acceptation, l'acceptation de ce monde aujourd'hui, avec lui disparu. Qui est peut-être une étape pour chacun d'entre vous dans la famille.
Oui, notre temps n'est pas celui de Dieu, alors on compte sur... Ouais. Je mets mon espoir en le Seigneur. Et peut-être... sur une vie. Ouais. Un jour, 1000 ans, c'est pareil. On attendra encore et encore, mais... C'est pas trop... Je reconnais qu'avec les années, maintenant, enfin, je fais même plus. J'essaie même plus ni de comprendre, ni d'essayer de rentrer dans le moule. Non, et je les écoute plus. Il y aura rien de joyeux, mais c'est la joie, elle est déchirée de toute façon.
Au moins,
même la joie, elle fait pleurer.
Ouais, peut-être parlez-en à un psychologue, à quelqu'un qui puisse vous écouter.
Ça sert à rien. Excusez-moi, ça sert à rien parce que je lui dis, mais pourquoi vous me recevez encore? Pourquoi?
Il faut continuer malgré tout, je crois. Il faut continuer. Hein. On va vous confier, les auditeurs vont vous confier, Sandrine, hein, pour ce deuil qui est douloureux pour vous. Hein, nous, on a des témoignages de personnes qui sont dans ce veuvage, qui est vraiment entier et complet et qui souhaitent vraiment même être veuve consacrée.
J'ai voulu être veuve consacrée. C'était dans mon cheminement. C'est ce que j'ai. Très Mais bien. Le Seigneur, j'ai compris que j'allais aller à Paris. Je faisais les démarches entre guillemets. J'avais pris les contacts et je devais partir à Paris il y a de ça 3 ans. Et la veille, j'ai annulé parce que j'ai compris que. Enfin, j'ai eu dans mon cœur que le Seigneur, je me donnais en fait en sacrifice de ce qu'il avait fait et que le Seigneur me voulait vivante. Que si un jour je devais aller à lui, c'était vivante, pas morte. Et qu'il les sacrifices, il n'avait pas besoin. Il avait donné déjà sa vie pour mon mari, pour nous. Donc il me voulait vivante. Si je devais aller vers lui, c'était avec amour, pas pour réparer. Alors j'ai dit non. Pourtant, c'était ce qui me tenait, mais j'ai compris que je me suis dit que c'était une erreur parce que je ne le faisais pas pour une bonne raison. Je le faisais certes par amour pour mon mari, mais c'était par amour pour Dieu qu'il fallait que je sois consacrée. Je me consacrais au Seigneur, pas à mon mari. Mon mari, je me suis mariée avec lui. Il avait à l'époque 25 ans. Donc non, j'ai dit c'est une erreur que tu es en train de faire. Tu fausses la relation avec le Seigneur et tu t'enfermes encore plus avec lui, avec ton mari, qui est décédé. Donc j'ai pleuré, mais j'ai appelé, j'ai dit en fait je ne viendrai pas. Je crois que je me suis trompée, j'en suis pas. C'est une erreur de ma part, ce serait mensonge. Parce que j'avais compris que c'était. Et que c'est pas moi qui sauvais, qu'il était mort à la croix pour lui, pour moi. J'avais pas à me sacrifier, entre guillemets. Mais c'était là, oui. C'est à chaque jour là, de toute façon, dans mon quotidien, oui. Mais bon. Est-ce que c'est par amour pour Dieu ou par amour pour mon mari? Je ne sais pas.
Ouais. Voilà. En tout cas, merci de votre confiance et votre témoignage courageusement donné. Voilà.
Oui,
merci. Je vous souhaite de poursuivre.
Merci Sandrine.
Oui, merci toujours à vous.
Nous vous portons dans nos prières.
Si vous me tenez depuis longtemps. Merci. Je suis encore là. Merci. Je vous sers toutes et tous sur mon cœur aussi. Je vous remercie d'être là dans l'invisible. Et on ne se connaît pas, mais merci de ce lien qu'on a tous. Merci.
Vous avez ma prière.
Et bien sûr, on n'oublie pas ceux qui souffrent et qui n'ont pas appelé. Merci.
Merci Sandrine.
Merci Radio.
Alors, nous arrivons au terme de l'émission. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire pour conclure à nos auditeurs?
Alors, on le voit avec le témoignage de Sandrine, que voilà, chacun son rythme, comme on dit, c'est très très important. Alors, bien évidemment, il y a de tout, et ceux qui souhaitent s'inscrire, il y en a certains qui sont vraiment très très en demande de partage, de tout ça, d'échanges dans la vie et qui ont un chemin différent dans la douleur, qui ont souvent avancé, commencent à vraiment avoir une identité propre dans ce deuil en tant que veuve précoce. Voilà. Comme je rappelle, donc, la prochaine session aura lieu fin mars, les 25 et 26 mars à Fondatio à Versailles. Voilà, et les renseignements, si vous le souhaitez, et le contact, c'est moi qui réponds sur l'adresse mail poursuivrelechemin@gmail.com. Voilà, il y a tous les renseignements sur fondatio.fr, évidemment, aussi.
Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans une émission de promotion humaine avec Delphine Pageot qui nous a parlé aujourd'hui avec Fondatio Le Deuil. N'hésitez pas à retrouver cette émission en podcast sur notre site sur le www.radiomaria.fr.